c'est vendredi, et vendredi, on a toujours le même indicatif, celui de Air Supply pour une des chroniques de Philippe Quentin.
C'est pour ça que j'ai pas de cheveux blancs, c'est zen, Air Supply.
Bon, on a trouvé le secret pour éviter les cheveux blancs et les cheveux gris, donc écoutez Air Supply.
Oui, tout à fait, tout okay. à fait.
Est-ce que Thierry Henry a des cheveux blancs?
J'étais sûr que tu ferais cet enchaînement-là, puis je me suis dit, si tu le fais pas, je vais le faire. Alors, bon, tu m'as devancé au punch.
Okay, ça,
on verra
drôle.
Bien s'il y aura des cheveux blancs dans un an, Thierry Henry. Mais pour l'instant, je vais te parler de cette entrevue qu'il a accordée au quotidien L'Équipe. L'Équipe qui a dépêché un envoyé spécial à Orlando, en Floride, là où s'entraîne l'Impact, pour interroger cette grande gloire du soccer français qui dirige maintenant l'Impact. Un article assez intéressant. C'est un peu bizarre de lire en ouverture de texte que Thierry Henry a néanmoins posé ses conditions au journaliste Maxime Mallet avant de donner l'entrevue. Je ne veux pas parler de ma carrière de joueur, puis je ne veux pas parler de mes expériences précédentes de coaching, à Monaco notamment. Mais
voyons.
Bon, l'article est quand même intéressant parce qu'il s'ouvre pas mal. Il parle de Major League Soccer. On sait qu'il a joué longtemps à Major League Soccer avec les Red Bulls de New York, donc il connaît très, très bien la Ligue. Et il dit, cette Ligue m'a appris à être patient, vraiment. Il y a des aspects sur lesquels la MLS ne peut pas être comparée avec les Ligues européennes, mais je ne m'attarde plus là-dessus. J'essaie de faire avec ce qu'on a, comme les postes de joueurs désignés et le plafond salarial. Mais c'est intéressant parce qu'il revient sur un des plus grands irritants pour les joueurs de soccer, surtout ceux qui viennent d'Europe, et ce sont les déplacements. Ils ne sont pas habitués à ces longs voyages pour aller jouer à Los Angeles, et le recours à des vols nullisés est limité. Les équipes de Major League Soccer, ils n'ont pas le droit de prendre des vols nullisés.
Sérieux?
Oui, c'est limité parce que ça coûterait trop cher et ça pourrait désavantager certaines concessions.
Ça avantagerait les équipes les plus riches.
Bon, ça va peut-être changer parce qu'on est en train de renégocier la convention collective, mais il revient là-dessus. Puis il dit des fois, les gens me disaient c'est lent le jeu en Major League Soccer, mais il dit c'est sûr que quand tu vas à Houston, à Dallas ou jouer en altitude à Colorado, que tu reviens trois jours après jouer dans l'Est, c'est sûr qu'à 60 minutes, ça va être un petit peu plus dur. Alors, mais je pense que c'est...
Philippe, je pense qu'il est généreux. Je pense que le jeu européen est par nature plus rapide.
Oui, clairement, mais il n'en reste pas moins que ça. C'est un irritant majeur, puis ça peut empêcher des joueurs de venir en Major League Soccer, puisque je me souviens de Didier Drogba, Patrick, quand il a quitté, ou juste avant de quitter. En fait, après sa première saison, il a dit qu'il y a une chose qu'il faut que Major League Soccer règle rapidement, c'est la question du transport. Puis tu sais, tantôt, on parlait de la nouvelle convention collective dans le basket féminin. Là aussi, c'est un enjeu. Le transport, aujourd'hui, pour les athlètes, c'est fondamental parce qu'on leur demande beaucoup et ils veulent récupérer. Et souvent, là, s'ils sont dans des vols commerciaux, on sait c'est quoi voyager, là, ça peut être très difficile. Il dit aussi, on lui demande c'est quoi une saison, ce serait quoi une saison réussie pour lui, pour Thierry Henry avec l'Impact. Il dit ce serait de faire les playoffs. Et il dit ça fait 3 ans qu'on ne les a pas fait, mais l'équipe est quasiment la même. Donc, il va falloir apporter un peu plus, avoir cette mentalité de ne pas aller perdre, de ne pas aimer perdre, pardon, d'aller au bout de soi-même. Donc, on voit tout de suite là, un regard assez lucide sur les choses, mais il y a aussi un plan. Et on dit aussi qu'on lui rappelle que Montréal est un, on n'emploie pas le mot, mais que c'est un cimetière d'entraîneurs pour l'Impact. Donc, il dit, on lui dit, il n'y en a aucun qui est resté vraiment plus de 2 ans. Là. Et il répond, et c'est ça qui est pas mal comme réponse. Et donc, Thierry Henry dit, si tu n'acceptes pas de te faire virer, ne viens pas dans ce milieu. Si tu ne veux pas que ton ego soit froissé, que tu en prennes plein la tête, n'y entre pas.
C'est bien dit.
Oui, c'est bien dit. Et là, il parle aussi d'être coach. Puis il dit, comment on peut se trouver? Ça fait longtemps là, que tu n'as pas coaché. Ça fait quoi, 1 an? Comment tu vas te remettre? Il dit, quand tu es coach, tu ne peux pas te pointer à Pôle emploi. Bon, Pôle emploi, je pense que c'est le bureau du chômage en France. Il dit, tu sais, ce n'est pas là que tu vas te trouver un job. Il faut que tu attendes que des places se libèrent. Il dit, tu n'as pas envie qu'un coach rate son coup. Mais tu es conscient, parce que tu es conscient que si personne rate, tu n'auras pas de job. Mais quand il y en a un qui rate, tu dis, ben peut-être là, puis que tu attends ton téléphone sonne. Alors, c'est une entrevue vraiment intéressante. Si vous avez la chance de la lire, c'est bon, parce que ça ouvre un peu sur comment pense Thierry Henry, comment il voit son travail à Montréal.
Est-ce que le journaliste est quand même allé dans les zones que Thierry Henry ne voulait pas aborder?
Il parle un petit peu de son séjour comme entraîneur à Monaco, et puis il parle un peu de son processus d'apprentissage, et d'ailleurs, le titre est très évocateur, j'ai aimé le titre, et c'est une citation de Thierry Henry. Tu prends des gifles et tu apprends.
OK, parfait. Bon, parle-moi de ma joueuse de tennis au nom qui porte mon nom, le nom préféré. Oui. Coco Gauff.
Coco Gauff, alors 15 ans, je le disais tantôt, elle est plus jeune que la majorité des joueurs qui participent au tournoi junior des internationaux d'Australie. Mmh. Et pourtant, hier, elle a battu la championne en titre, Naomi Osaka, une victoire convaincante en 2-7. Et Coco Gauff est représentée par une firme d'agents qui s'appelle Team 8. Team comme équipe, équipe 8, Team 8. Qui sont les propriétaires de Team 8? Eh bien, c'est Roger Federer et son agent de toujours, Tony Godzik. Mmh. Et tout à coup, Godzik a quitté. Lui, il gère la carrière de Federer depuis toujours. Et tout à coup, il a quitté l'agence pour laquelle il travaillait. Il a fondé sa propre agence avec Federer comme partenaire, qu'il continue de représenter. Les deux recrutent des jeunes joueurs pour les représenter. Et Coco Gauff fait partie de l'écurie, si tu veux, de Team 8. Et après le match d'hier, après qu'elle ait gagné son match, une des premières personnes qu'elle a rencontrées dans les couloirs du stade à Melbourne, c'est Roger Federer et a dit, écoute, c'est vraiment quelque chose, elle est toujours impressionnée quand elle le rencontre, mais elle parle d'un peu de lui, de Roger Federer, puis quand t'écoutes Coco Gauff, tu ne croirais pas que c'est une jeune femme de 15 ans, là, elle parle avec tellement d'assurance, elle est vraiment bonne en entrevue et écoute ce qu'elle dit à propos de Roger Federer, on va traduire après.
I feel like Roger would have always been nice to me regardless, even though we have the teammate connection, but I feel like he's a nice person, and not just to me, but I see him with other players as well. I mean, he's that type of guy, you just, no matter how many times you speak to him, you're still kind of in awe of like his whole presence and what he's done and on the court and off the court.
Donc, je vais résumer. Elle dit, écoute, Roger Federer, c'est quelqu'un qui est toujours gentil. Elle dit, c'est une bonne personne. Puis, pas juste avec moi, elle dit, je le vois agir avec les autres joueurs, les autres joueuses sur le circuit. Elle dit, c'est un peu pour ça que quand je le vois, je suis toujours impressionné.
Oui, c'est ça. Puis, j'ai trouvé ça bon parce que je trouve que ça illustre un peu qui est Roger Federer. Puis, moi, je me souviens quand il est venu à Montréal, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, j'ai couvert ce tournoi-là. Ça fait quoi, deux ou trois ans maintenant. Et comment il était généreux en salle d'entrevue, tu sais. Puis, quand même, il vient à Montréal. C'est un tournoi parmi les autres. Je comprends que important, mais c'est pas une des cartes majeures non plus. Puis, avec des journalistes qu'il ne connaissait pas, pour la plupart des journalistes de Montréal, généreux dans sa réponse, dans ses réponses, prendre le temps. Et là, il faisait en anglais d'abord. Après ça, il faisait des clips en français pour les journalistes qui en avaient besoin. Puis après ça, il en faisait en suisse-allemand pour la Suisse, pour les journalistes helvètes qui étaient là. Alors, c'est quand même assez bien de le voir. Et c'est un bel hommage, je trouve, que lui rend Coco Gauff, qui est toute jeune puis qui a bien pris la mesure du personnage. Federer, hier, qui s'en est tiré là, tout juste, il a réussi à passer. Oui, c'est très difficile. Mais il a gagné son match. Il passe à la ronde suivante. Serena Williams, elle a perdu. Je te l'ai dit tantôt, mais je veux juste te faire écouter sa réaction après le match parce qu'elle a perdu le premier set. Et là, elle est en voie de perdre le deuxième. Son adversaire, la Chinoise Wang Kang, servait pour la victoire au deuxième set. Et Serena Williams a remonté ça, a remporté ce set-là. C'était 1-1. Et là, moi, comme à peu près tout le monde, on s'est dit, c'est fini. Là. La Chinoise, au troisième set, elle a raté Chassange. Elle va s'effondrer. Elle va finir 6-1 pour Serena Williams. C'est pas ça qui s'est produit. Wang Kang a réussi à gagner un set très serré. Mais ce qui était bon, c'est que Serena Williams, après, a dit qu'elle aussi était pas mal sûre de gagner après le fameux deuxième set.
Oui, yeah, I was optimistic that I would be able to win. I thought, OK, now I'll finish this off. I honestly didn't think I was going to lose that match.
C'est pas mal. Hein?
J'étais optimiste, je ne pensais pas honnêtement que j'allais perdre ce match-là.
C'est clair, ça le mérite d'être clair. Non, je pensais pas perdre, j'étais très surpris. C'était un beau match.
Mais Philippe, tantôt, on parlait de au début de ce segment-là, là, on parlait de Roger Federer, gentleman disponible. Puis, écoute, on m'a déjà dit, là, les gens qui trippent sur le tennis, qui est tout aussi gentil avec les gens qui croisent au tournoi au Parc Jarry. L'anti-Federer, pour toi, qui a couvert tellement de sports, c'est qui?
Oh, bon, t'es quel...
Là, je te prends les culottes baissées. Là.
Un petit peu au dépourvu. Faudrait que j'y pense, mais il y en a qui... déjà, pas fin, il y en a pas vraiment, mais il y en a, tu vois, que ça leur tente pas. Quand ça leur tente pas de répondre aux questions, c'est plus difficile. Ça m'est pas arrivé très, très souvent dans ma carrière de côtoyer ou d'interviewer des gens où je me suis dit après, mon Dieu, tu sais, c'était-tu plate. Je pense que des fois, il faut juste que tu sois un petit peu persistant puis que tu amènes. C'est souvent la façon d'amener aussi la question. Tu sais, si t'interviews un athlète professionnel, puis qui sort de la patinoire, mettons un hockey ailleurs, puis qu'il vient de donner un gros effort, là, puis que tu sais, il est un peu fatigué, là, puis que là, tu garoches devant lui, puis que tu lui poses la question, là, tu sais, celle qui est dure. Tu sais, c'est pas une bonne idée. Vas-y avec un petit peu plus de doigté. Attends un peu, là. C'est comme le coach du Canadien. Des fois, les gens, ils vont dire, hey, j'écoute l'entrevue du coach du Canadien après le match, là. puis il dit rien, puis c'est donc plate, puis les journalistes posent pas les bonnes questions, puis moi je trouve ça toujours drôle, parce que après un match, là, un coach c'est comme un joueur, il vient de donner un effort de concentration, là, puis les émotions sont à fleur de peau, c'est pas le temps d'aller lui demander de faire le bilan des 20 derniers matchs, puis tout ça, tu sais, il vit des émotions, t'es beaucoup mieux d'aller poser les questions difficiles le lendemain, après un entraînement, à Brossard, dans un contexte plus relax. Donc, c'est souvent une question de doigté.
Parle-moi de Pascal Siakam, qui va être au match des étoiles de NBA.
Oui, Pascal Siakam, c'est maintenant la vedette des Raptors de Toronto depuis le départ de Kawhi Leonard pour Los Angeles. Et c'est une histoire extraordinaire. C'est un Camerounais dont le père a travaillé très fort pour que ses enfants puissent faire des études aux États-Unis. Il les a amenés aux États-Unis, puis c'est là qu'ils ont étudié. Puis personne ne croyait que Pascal Siakam deviendrait un si grand joueur. Et aujourd'hui, c'est une puissance dans la NBA. Il a été élu parmi le 5 partants pour le match des étoiles. Et sur le site des Raptors de Toronto, il y a une entrevue avec lui que j'ai trouvée vraiment intéressante. Je vais vous en faire écouter un petit extrait. Il parle de son père qui est aujourd'hui décédé, puis il explique comment il aimerait que son père soit encore là pour partager ce moment de bonheur avec lui.
I kind of wish that he was here. And you know, I kind of hate, like, every time there's a big moment, you know, like, it's just because, like, it feels like there's something missing, but I know he's here. I know he's watching me. I can feel his presence. But I think it would be, you know, kind of nice to be able to look at him in the face and just tell him that, like, you did it and we did it, and whatever you put your mind into and whatever you worked so hard for is here and we're doing it at the highest level.
Il me manque quelque chose, mais je sens sa présence.
C'est beau, ouais.
Et j'aimerais ça pouvoir lui dire, je l'ai fait, on l'a fait.
Puis c'est pour ça que je voulais le faire écouter. Je trouve ça beau.
Très belle façon de finir ta semaine, Philippe Quentin. Merci, on se retrouve lundi, 16h37, presque. Et Catherine Beauchamp s'en vient. On va parler avec Marie-Pierre Arthur, qui vient nous parler de son nouvel album, Des Feux pour voir.